Session de théologie le 30 août 1991, conférence du Père Samuel.
Par sa fausse finalité, si vous voulez, ou la finalité qui est celle du démon, c'est l'homicide. Hein, puisque la manière dont Jésus définit le démon, c'est comme celui qui est père du mensonge et homicide dès le commencement. Et donc c'est la destruction de l'homme qui peut avoir deux formes, qui est l'autodestruction ou le meurtre, ou la destruction de l'autre. C'est pour ça que quand la tentation est immédiatement liée à la destruction de soi ou à la destruction de l'autre, c'est un des critères qui permet de présumer une présence plus immédiate du démon. Alors on sait, et la psychologie le montre, qu'il y a des fragilités psychologiques qui ont une tendance à la violence contre l'autre ou contre soi. Mais c'est une chose, la tendance à la violence contre l'autre et contre soi, c'est autre chose, vous voyez, la volonté de destruction, c'est pas la même chose. Le psychisme, je dirais, l'homme même dans sa psychologie, aussi abîmée soit-elle par le péché originel, ne peut pas vouloir se détruire. Il peut vouloir se faire violence, et il peut vouloir être violent contre l'autre, mais c'est une chose d'être violent, c'est autre chose de détruire. Mais ça n'est qu'un critère, vous voyez, ça ne suffit pas. Ce n'est pas nécessairement parce que quelqu'un veut détruire son voisin que le démon est présent. Et ça ne veut pas dire non plus que parce qu'il ne veut pas le détruire, le démon n'est pas présent. Mais étant donné le pouvoir que Dieu permet au démon sur notre imaginaire, puisque l'épreuve par rapport à Dieu, vous voyez, j'irais d'une certaine manière, elle a lieu plus immédiatement par rapport à l'intelligence et la volonté. Mais étant donné le pouvoir du démon par rapport à notre imaginaire, à notre psychisme, c'est très difficile de discerner. Alors, il y a des questions qui ont été posées de manière plus pratique, qui sont au niveau précisément de la psychologie. Savoir, est-ce qu'il y a une thérapeutique chrétienne? Est-ce qu'il y a une médecine chrétienne? Est-ce qu'il y a une psychologie au sens d'une pratique médicale spécifiquement chrétienne? Autrement dit, est-ce que je peux me servir de ça, cette distinction-là, pour guérir? Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas de médecine qui ne soit que chrétienne. Parce que précisément, la médecine doit tenir compte de tous les degrés dans l'homme. Donc elle doit tenir compte de ce qui est humain, de ce qui est infra-humain et de ce qui est surnaturel. C'est pour ça que l'analyse sur les tentations nous permet de voir que d'abord l'homme, quand il est de bonne volonté, est habité par une vie surnaturelle, par une vie de grâce, qui vient se greffer sur sa vie spirituelle. Mais que cette vie spirituelle, elle est d'une certaine manière mise en danger en danger par les conséquences du péché originel qui ont pour siège principal le psychisme, au sens de l'affectivité passionnelle et de l'imaginaire. Alors, l'affectivité passionnelle comme telle, et les passions ne sont pas mauvaises, l'imaginaire non plus. Et le psychisme comme tel, il n'est pas mauvais. Mais il a une propension au repli sur lui-même, il a une propension à recourber l'homme sur lui-même, qui lutte contre la vie spirituelle. Et cette propension, elle est d'une part spontanée, d'autre part renforcée par le milieu dans lequel on vit et par les fautes personnelles et par l'hérédité. Oui, ça fait beaucoup de choses. Le pauvre psychisme, il a déjà les conséquences du péché originel, on les a toutes, mais elles peuvent être, vous voyez, augmentées par l'hérédité. On descend d'une horde de barbares, la tendance à mordre ses frères est plus forte. Ou à fuir, ça peut être, si on est d'une descendance d'une horde de poltrons, la propension à la fuite, à fuir ses frères est tout aussi forte. Et puis il y a le milieu familial, l'éducation, milieu sociologique. Qui d'une certaine manière, vous voyez, a une influence beaucoup plus immédiate sur le psychisme, parce qu'il est du côté de l'image, du côté sensible, que directement sur la vie spirituelle. Et il atteint la vie spirituelle par le psychisme. Et puis il y a les fautes personnelles. Que c'est une chose d'avoir propension à fuir ou à mordre ses frères, c'est autre chose de passer à l'acte plusieurs fois. Ça finit par créer des réflexes. Et donc la disharmonie, alors inversement, hein, dans l'autre sens, on ne se transmet pas la vertu. Donc héréditairement, on n'est pas vertueux. Mais on peut l'hérédité, c'est vrai, l'atavisme peut comporter une moindre propension. C'est vrai, si on a des parents et des grands-parents qui étaient des saints, on a moins tendance à mordre ses frères. Oui, mais c'est du côté du... On a moins de disposition au mal, mais on n'a pas de disposition positive. L'atavisme ne transmet pas du côté moral et du côté du psychisme une orientation fixe, une facilité. On peut avoir un tempérament qui héréditairement a une capacité à affronter l'épreuve relativement grande, mais c'est une chose d'avoir une propension à affronter l'épreuve, c'est autre chose, le courage. Le courage, c'est précisément la détermination. Et le fait de pouvoir se servir de cette facilité d'une manière stable. Donc la vertu qui est d'avoir un pli positif, vous voyez, une espèce d'orientation positive et systématique dans le sens du bien. Ça ne se transmet pas héréditairement. Mais le milieu, et c'est ça l'éducation, lui peut le développer. Donc inversement, si vous voulez, si l'hérédité peut transmettre moins de mal, mais ne peut pas transmettre la vertu, le milieu, lui... Il peut m'éduquer à la vertu. Puis évidemment, moi-même, je peux m'auto-éduquer à la vertu. Et le but de la vertu, c'est précisément, non pas de supprimer les passions, mais de mobiliser l'énergie vitale, vous voyez, la force vitale des passions et de l'affectivité et de l'imaginaire au service du bien. Et puis, il y a aussi toute la vie végétative. Tout le terrain biologique, physiologique, tout le terrain du corps dans lequel s'enracine le psychisme et qui est en interdépendance très forte. C'est très difficile d'identifier des choses qui ne touchent que la vie végétative. Il n'y a aucune répercussion du côté affectif. Quand vous mangez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ça a normalement des répercussions sur le psychisme. Sauf si vous êtes très très vertueux. Vous digérez mal avec le sourire. Et inversement, un désordre dans l'ordre de la vie psychique a des répercussions sur la vie végétative. Quand on n'a pas du tout le moral, on en perd la faim, et des fois même le sommeil. Et la vie spirituelle a des répercussions sur la vie végétative par la vie psychique. C'est pour ça que, par exemple, la faute morale, ou le péché, même la vie surnaturelle, le péché, qui est au niveau surnaturel, c'est un refus de la grâce de Dieu. Il a des répercussions sur ma vie spirituelle, puisqu'il me coupe, si vous voulez, me coupant de Dieu, me faisant refuser plus ou moins consciemment la présence de Dieu, il obscurcit, il affaiblit ma volonté, il obscurcit mon intelligence. Et donc il laisse plus de place au psychisme, parce que la nature a horreur du vide. Et il peut ultimement avoir des répercussions jusque sur ma vie végétative. C'est Aristote qui dit que le sommeil du juste, c'est la vie végétative, le sommeil, hein, n'est pas le même que celui du brigand. On voit ça, on voit la tête de ses frères changer entre l'entrée, avant qu'il rentre, avant qu'il se convertisse, après qu'il se soit converti, avant d'entrer, après être entré, après la profession simple, et au moment où ils vont mourir. Alors il y a une progression très nette jusque dans la vie végétative parce qu'ils ont un visage qui est de plus en plus lumineux. Même chose, une fiancée, on voit bien la modification. Normalement, au bout de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans de mariage, il devrait y avoir un visage qui devient de plus en plus lumineux. Ou qui reflète de plus en plus la présence positive de l'autre. Et donc, si vous voulez, la réflexion sur la manière de guérir, c'est-à-dire de favoriser la vie, hein, puisque la finalité de la médecine, ce n'est pas de lutter contre la maladie pour lutter contre la maladie, c'est de favoriser la vie pour lutter contre la maladie. Puisque la lutte contre la maladie, c'est de favoriser ce qui, dans le vivant, est capable de lutter contre la maladie, en premier lieu. Et ensuite, de lutter contre le mal de manière plus immédiate, si le vivant n'est pas capable de lutter par lui-même. La première attitude du médecin, normalement, est d'abord de favoriser la lutte du vivant contre sa propre maladie, et ensuite, de l'aider à cette lutte en attaquant plus ou moins directement le mal. Alors, quand il s'agit du psychisme, donc de la réflexion sur la psychologie. Aujourd'hui, la psychologie découvre qu'elle ne peut pas se séparer complètement d'une réflexion sur la vie végétative. Et qu'il y a une interaction entre le domaine de la vie biologique et de la vie psychique qui est très fort. Ce qu'elle a sans doute encore à découvrir, certains, comme Frankl par exemple, ont développé comment est-ce que la vie spirituelle, notamment l'attitude religieuse, avait des répercussions sur le psychisme. Mais ce que, précisément, la réflexion sur les tentations et les épreuves aide à voir, c'est que la vie surnaturelle de la grâce est aussi à prendre en compte dans le désordre psychique. Pour essayer de discerner, non pas quelle est son unique origine, parce que le mal n'a jamais de cause propre. C'est-à-dire que je ne peux pas jamais identifier de manière absolue la cause d'un mal. Si vous réfléchissez, une réalité n'est jamais cause unique du mal. Ne serait-ce que parce que celui qui subit ce mal, il participe. Si je résiste parfaitement au mal, vous voyez, je ne suis pas atteint par le mal. Si je suis atteint par le mal, c'est que d'une certaine manière, je suis capable d'être atteint par ce mal. Donc il y a quelque chose en moi qui est capable d'entrer dans la logique du mal. Très simple, si on vous donne quelque chose qui vous empoisonne, le fait que le mal passe en vous implique une propension, une capacité dans l'organisme à être affecté par le poison. Si vous étiez incapable de l'assimiler, vous ne seriez pas affecté par lui. Donc vous voyez, la présence du mal, le mal il est toujours dans un sujet. Je n'observe jamais le mal à l'état pur. Et le mal n'est jamais identique au sujet. Aucune réalité n'est le mal. Même le démon. Le démon comme sujet est une créature qui est aimée de Dieu comme créature. Et le démon n'est pas cause de la crise de foi. Donc il n'est pas l'unique cause du mal. Donc c'est très important de voir que je ne peux pas assigner de cause unique au mal. C'est le manichéisme, si vous voulez, qui a... Dès qu'on cherche à assigner une cause unique au mal, à dire que voilà, il y a une seule source du mal, que ça soit aussi bien du côté médical que du côté théologique, que du côté philosophique, on simplifie. Et le manichéisme, la réaction manichéiste, c'est celle-là. C'est de vouloir identifier le mal et le réduire à une seule réalité. Vouloir réduire sa source et trouver une seule source. Et donc, quand on a travaillé sur un désordre, vous voyez, à essayer de guérir un désordre psychique, c'est le travail de la psychologie, on doit tenir compte de tous les lieux possibles du mal. C'est aussi bien la vie végétative que le psychisme lui-même, que la vie spirituelle, que la vie de la grâce. Alors, je distingue la vie spirituelle et la vie de la grâce parce que, par exemple, je peux être malade parce que je suis bête. Au sens où il y a en moi une soif d'être en lien avec le réel, ou une soif d'aimer. Une soif de connaître la réalité, toute simple, avant même de connaître Dieu. Si cette soif de connaître, je n'ai pas l'intelligence de la mettre en œuvre, de la faire grandir, voyez, si je ne me nourris par exemple que d'images et jamais de réel, si je ne, vous voyez, si je ne, au fond, je, mon intelligence s'endort dans les images et ne prend pas l'habitude de passer de l'image au réel. Un enfant, vous voyez, on voit des enfants aujourd'hui qui sont informés sur tout, mais qui n'ont l'expérience de rien. Ils sont capables de vous parler de tous les pays du monde, de tous les animaux de la Terre, mais ils n'en ont jamais vu. Que vous avez un petit enfant qui boit du lait et qui tout d'un coup s'exclame « Mais maman, ça a le goût de vache !» Bon, parce que pour lui, le lait, ça ne vient pas de la vache, ça vient de la petite boîte carrée. Et, quand vous demandez aux enfants de dessiner des poissons, il y en a qui vous dessinent ça comme ça. Non, mais vous riez, mais c'est vrai. Et on est de plus en plus confronté à des enfants, alors c'est très difficile pour la foi, qui n'ont aucune expérience immédiate. Je pense à, par exemple, un autre exemple qui est celui de la musique. C'est rare les enfants qui ont l'habitude d'entendre un véritable instrument. Ils entendent toutes les cassettes de la Terre, tous les disques de la Terre, mais ils n'ont jamais entendu de véritable instrument. Et ils trouvent ça très moche d'ailleurs, quand ils entendent un véritable instrument, parce que ce n'est pas comme sur le disque. De manière qu'ils ne supportent pas la réalité parce que ce n'est pas comme à la télévision. Ben, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que là, c'est une asphyxie de la vie spirituelle. Pas immédiatement de la vie de la grâce, ce n'est pas nécessairement une faute, mais c'est un manque d'intelligence. L'éducation, par exemple, si l'éducation est bête, elle tue la vie spirituelle. Mais c'est une faute morale humaine, ce n'est pas nécessairement un péché. Donc j'ai aussi à tenir compte de la présence du mal à ce niveau-là, et au niveau surnaturel. Alors ce qui est très difficile, c'est d'essayer, dans un cas concret, de discerner d'où vient, quelles sont les causes, vous voyez, qui mettent dans cet état-là. Alors je ne peux en exclure aucune, mais très souvent il y a des dominantes. C'est pour ça que je ne peux pas dire que quelqu'un qui ne va pas bien psychologiquement, il suffit qu'il adore. C'est pas vrai. Adorer va aider à dépasser les limites du psychisme, mais il y a des situations limites où je ne peux même plus adorer, où je ne peux même plus envisager la possibilité d'adorer. Donc ça ne suffit pas d'adorer. Quand vous êtes face à un enfant qui est autiste, vous pouvez toujours lui dire d'adorer. Ça ne changera rien du tout. Mais je ne peux pas non plus me contenter de ne regarder que la psychologie. Parce que précisément, elle est en interaction vitale, pas simplement théorique, mais en interaction vitale avec la vie spirituelle, avec la vie de la grâce et avec la vie végétative. Et j'ai à repérer, vous voyez, comme médecin ou comme éducateur, les lieux de croissance possibles. Quand vous êtes face à un handicapé mental, il y a des possibilités de croissance immenses du côté de la grâce. Mais pour ça, il faut être capable de les voir concrètement dans la personne, de voir les capacités, parce que cette croissance de la grâce, elle ne se fera pas sans un développement de la vie spirituelle. Et de découvrir comment permettre un certain développement de la vie spirituelle. Et ce développement de la vie spirituelle, il sera lui-même lié à certaines conditions, non pas de guérison, mais d'évolution à l'intérieur du psychisme. Quand on voit Jean Vanier parler des handicapés, il dit très bien qu'il y a un moment où, quel que soit l'état d'un handicapé au point de départ, il y a une ouverture intérieure qui se fait. Il y a une croissance intérieure qui n'est pas sans la coopération de l'enfant ou de l'adulte, qui ne dépend pas que du milieu, qui dépend aussi de l'enfant. Et dans certains cas, il y a même presque un choix. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile à discerner que dans le cas d'un adulte. Vous voyez, c'est pour dire que je ne peux pas, même si je privilégie la vie surnaturelle, elle ne s'enracine pas, mais elle ne s'exerce que dans une personne qui implique tous ces degrés de vie. Alors ce qu'il faut, c'est à tous les niveaux, essayer de comprendre ce que c'est que la santé. Ce que c'est que la santé de la vie végétative, parce que la santé, c'est le bien-être du vivant. Quelle est la santé de la vie végétative? Quelle est la santé de la vie psychique? Quelle est la santé de la vie spirituelle? Quelle est la santé
la vie surnaturelle.
Alors c'est très beau parce qu'après ça, on a un regard sur les sacrements. Qui, vous voyez, quand on regarde ce que c'est que les sacrements, on voit que la richesse des sacrements, c'est qu'ils touchent tous les niveaux. Puisque c'est un signe sensible, le sacrement. Il y a le sacrement, il me donne la grâce, il engage ma vie d'intelligence, puisque je reçois une réalité précise, c'est pas imaginatif. Il implique la sensation, donc il implique l'affectivité. Si le Seigneur se sert de pain, vous voyez, de l'apparence du pain et de l'apparence du vin, ou de l'eau ou de l'huile, il se sert d'une réalité sensible. C'est pour ma vie affective et ma vie sensible. Et puis, par exemple, dans l'Eucharistie, ça touche même la vie végétative. S'il se sert du signe de la nutrition, ce n'est pas pour rien. C'est ça qui est très riche dans les sacrements, c'est d'unir ce qu'il y a de plus, d'unir la matière, pas simplement le sensible, d'unir la matière à la grâce. C'est ça que c'est un moyen privilégié de guérison, le sacrement. Mais ça implique, mais je dirais presque, ça implique un milieu sacramentel, c'est-à-dire qu'une véritable thérapie chrétienne, elle devrait se servir de la sagesse divine qui est présente dans les sacrements pour comprendre comment organiser un milieu thérapeutique à l'image des sacrements, qui est l'intelligence que Dieu a mis quand il a institué les sacrements. On voit ça dans la famille. Si le Saint-Père nous dit que la famille est une petite église, c'est-à-dire qu'elle est un des lieux privilégiés où on vit de l'Eucharistie. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre de l'Eucharistie ? Ça veut dire que l'Eucharistie doit finir par me donner une manière de vivre qui est analogue, vous voyez, au don de Jésus. L'Eucharistie, ce n'est pas simplement des provisions, ce n'est pas de l'énergie en divine tous les dimanches. C'est très intelligent, c'est trop intelligent. Et en même temps, c'est pour les enfants, mais c'est pour les enfants qui mettent toute leur intelligence pour essayer de se laisser éduquer par l'Eucharistie. Vous voyez, la liturgie, par exemple, autour de l'Eucharistie, elle est une manière de... C'est la manière dont l'Église a répondu au don du Seigneur. Donc la liturgie, elle est déjà normalement une espèce de réponse de l'homme à l'Eucharistie, mais en harmonie avec l'Eucharistie. C'est pour ça qu'elle m'est donnée par l'Église, la liturgie. Vous voyez, la liturgie qui enveloppe la consécration et la communion, elle est là pour m'apprendre à entrer dans la pédagogie de l'Eucharistie, dans la sagesse de l'Eucharistie. Et normalement, que ce soit la famille ou la communauté chrétienne, elle devrait apprendre à se laisser aussi rééduquer par l'Eucharistie. C'est pour ça que c'est très beau, vous voyez, dans le sacrement, de voir que tous les degrés de vie sont mis en œuvre. Et que donc, si la guérison, dans ce cas-là, de dernier, c'est le pardon et la miséricorde, hein, c'est au niveau de la vie de la grâce, pour que ça assume tout le reste, vous voyez, pour que ça se vive jusque dans la vie végétative, puisque la finalité de notre vie chrétienne, c'est pas simplement de vivre de la grâce, mais c'est de se préparer à vivre dans un corps glorieux. C'est ça, quand même. Qui n'est pas évident. Parce que se préparer à vivre dans un corps glorieux, on n'a pas beaucoup l'expérience. Mais c'est ça, la victoire dernière de l'amour, ce que dit saint Paul, c'est sur la mort. Donc l'effet dernier de la grâce, c'est la glorification des corps. Et comme chrétien, je ne peux pas ne pas m'y préparer. Je ne me prépare pas à mourir, je me prépare à ressusciter, ce n'est pas la même chose. Et donc concrètement, la pédagogie de Dieu, elle va jusque-là. Et donc, pour que la vie de la grâce s'incarne en nous, jusque dans la vie végétative, jusque dans mon corps, puisqu'il est le temple de l'Esprit-Saint, j'ai les sacrements. Et c'est ça qui doit me donner comme le modèle d'un regard chrétien sur la guérison. En sachant que la guérison dernière, c'est la résurrection des corps. Donc je n'ai pas, vous voyez, j'irais même l'attitude de celui qui enrichi par la théologie des tentations et des épreuves, regarde le problème de la maladie et de la maladie psychologique n'est pas le même. Parce que même s'il cherche à tout faire pour que la guérison ait lieu sur cette terre, il sait que la guérison dernière, c'est la résurrection des corps. Ce n'est pas la même chose d'agir en vue de la résurrection des corps que d'agir en vue d'une efficacité qu'on veut absolument immédiate. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'on dit de toute façon comme on sera ressuscité, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Vous voyez, parce que c'est ce qu'on va vous dire. On va vous dire, mais au fond, là, vous vous projetez dans le lointain, donc vous allez laisser mourir les gens, parce que c'est encombrant. C'est juste l'inverse. La résurrection des corps devrait me donner une intelligence de la maladie concrète, et donc de découvrir des capacités de permettre au vivant, qu'est la personne humaine, qui vit de la grâce, de se développer, beaucoup plus réaliste. C'est le réalisme ultime, c'est le corps glorieux. Hein. C'est l'assomption, si vous voulez. On ne peut pas s'arrêter avant, quand il s'agit, vous voyez, d'aider quelqu'un qui est malade. Alors il y a une autre. Alors c'est pour ça qu'on me posait la question, peut-on dire que toute maladie est l'expression d'un péché ? En dernier lieu, oui. Parce que ça remonte au péché originel. Ça, c'est vrai. Vous pouvez dire que toute maladie s'enracine dans le péché originel. Mais ensuite, c'est vrai qu'il peut y avoir des maladies qui s'enracinent dans le péché. Et c'est très vrai que vivre dans ce que le Saint-Père appelle des structures de péché, ce que Jean-Paul II appelle des structures de péché, c'est-à-dire au fond une civilisation et une société qui fonctionnent sur le modèle du péché. Sous le modèle de la glorification de l'homme et de la négation de Dieu. Même s'il n'y a pas de faute immédiate de chacun, ça dispose à la maladie de manière beaucoup plus forte. C'est évident que, encore une fois, si ma vie spirituelle, elle est tuée, ou elle est complètement enfouie, elle est congelée, parce que c'est ça, on peut pas la tuer complètement, la vie spirituelle, parce que la source, elle est pas, on ne peut pas l'atteindre. Mais on peut la paralyser, l'anesthésier. Et effectivement, à ce moment-là, je dirais, où est la vitalité la plus grande en nous ? Où est la vie la plus grande ? C'est la vie de la grâce et la vie spirituelle. C'est bien plus puissant, la vie spirituelle, que la vie végétative ou que la vie psychique. Nous, expérimentalement, on a l'impression que la vie végétative et que la vie psychique, elle est beaucoup plus puissante que la vie spirituelle. Mais c'est parce qu'on ne, vous voyez, on ne coopère pas à cette vitalité. Parce qu'elle est liée, vous savez, c'est Lazare qui sort du tombeau lié. Ben, ça fait partie de l'intelligence du chrétien de délier la vie spirituelle. Pas simplement de la nourrir, vous voyez, dans son frigidaire, c'est-à-dire en laissant la vie spirituelle congelée et en vivant du minimum de ce qu'il faut pour la grâce pour survivre. Alors quand même, tous les dimanches, on va à la messe parce qu'il faut quand même survivre. Ou une fois par an. Évidemment, c'est bien mieux que rien. Il vaut mieux survivre que mourir. Mais ensuite, le Christ nous laisse avoir l'intelligence de la manière dont il faut délier Lazare, c'est-à-dire libérer, laisser la grâce, libérer et l'intelligence et la volonté. On est sauvé. On n'est pas simplement en état de survie. Le Christ n'est pas contenté de dire « Je vais vous aider à survivre jusqu'à mon retour. » Vous voyez, mais c'est très important parce qu'il y a une... Du coup, c'est la même... Enfin, de manière plus générale, il y a une coopération à la grâce en sachant que c'est elle qui fait tout, mais elle ne fait pas tout sans nous. C'est toujours la grâce qui fait tout, ça c'est sûr, dans le chrétien. Et dès qu'il essaye de faire quelque chose à côté de la grâce ou en complément, ça ne marche jamais. Ça finit par pas marcher. Mais même si c'est elle qui fait tout, elle ne le fait pas sans nous. C'est le père Molinier, il faut avoir l'intelligence de la manière de céder à l'attraction du Christ. Il faut coopérer pour céder de tout son être. Et donc il peut y avoir une asphyxie de la vie spirituelle qui a des répercussions jusque sur la vie psychologique, vous voyez, de l'ensemble d'une population. C'est vrai qu'on invente des maladies. Au Moyen-Âge, la dépression nerveuse, ça n'existait que dans les couvents. Ça s'appelait l'acédie. Enfin, c'était pas la dépression nerveuse, mais l'acédie, c'est parce que précisément la vie religieuse met beaucoup plus à vif les fragilités, même si elle les ennoblit par la grâce. Ce qu'on appelle l'acédie, quand on voit ce que la tradition monastique appelle l'acédie, c'est-à-dire n'avoir plus envie de rien faire, le dégoût complet de tout. C'est au fond, c'est une espèce de tendance dépressive. Ça n'existait que là. Ailleurs, on n'a pas le temps, vous voyez, d'autre chose à faire. Parce qu'il fallait manger, parce qu'il faisait froid, parce qu'il faisait... Il fallait gratter la terre et parce qu'il fallait vivre. Alors c'est vrai que un milieu de vie dans lequel il y a ce que le Saint-Père appelle les structures de péché peut favoriser jusqu'à la maladie. Ça, c'est vrai. Elle en guérit certaines, mais elle en crée d'autres. On ne meurt plus de la tuberculose, mais du désespoir. C'est pour ça que donc, la maladie, en dernier recours, encore une fois, elle s'enracine dans le péché originel, mais la manière dont l'homme amplifie les conséquences du péché originel peut être plus ou moins grande. Alors, il y a plusieurs questions sur la tentation de Jésus. Pourriez-vous parler des tentations du Christ dans le désert et de sa dernière tentation ? Qui est en lien avec la question qui demande si Jésus a une psychologie. Les tentations du Christ, qui nous sont données à la fois par Saint Luc, et je crois que c'est Saint Matthieu, qui ont un ordre légèrement différent dans les deux cas, sont le modèle de toute tentation. Mais ces tentations, elles ne sont pas vécues dans le Christ comme en nous. Il ne faut pas projeter notre manière de vivre les tentations sur le Christ. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les tentations en nous ont une complicité avec le psychisme qu'elles n'ont pas chez le Christ. Ce qui veut dire à la fois que la violence de l'affrontement entre le démon et le Christ et la violence, si vous voulez, de l'affrontement du mal pour le Christ est plus forte. Même s'il n'y a pas de complicité. Vous direz, les complicités intérieures, elles ont ce désavantage de nous faire tomber plus vite, mais elles atténuent la violence puisqu'il y a des complicités. L'affrontement est moins violent. Quand vous avez des ennemis dans la place, la résistance est beaucoup moins forte. Et donc l'affrontement est beaucoup moins violent en nous, vous voyez, par rapport au mal. Et donc dans le Christ, précisément, il n'y a pas d'affrontement dans le psychisme. Il n'y a pas d'affrontement dans l'imaginaire. Mais ce qui est essentiel dans les tentations du Christ, c'est la réponse qu'il y donne par la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne discute pas, c'est la différence avec Ève, il ne discute pas avec le démon. Il lui oppose la parole de Dieu. C'est très beau, vous voyez, dans le premier dialogue, il y a une herméneutique du démon et une autre d'Ève sur la parole de Dieu. Alors que le Christ, qui est celui qui par excellence pourrait interpréter la parole de Dieu, ne l'interprète même pas. Je vous lirai juste, il dit simplement, il est dit. Alors on pourra dire, au fond, c'est pas le Christ n'est pas miséricordieux jusqu'au bout parce qu'il n'a pas vécu les tentations comme nous. Donc il ne nous accompagne pas autant qu'on le voudrait. Ça, c'est très psychologique. Ce n'est pas parce que quelqu'un coule avec vous qu'il vous aide plus. Et la miséricorde du Christ nous rejoint infiniment plus profondément en précisément en étant parfait qu'en étant imparfait. Mais s'imaginer que le fait que le Christ soit imparfait comme nous, le rende plus proche de nous, ça c'est imaginatif. Comme la Vierge Marie. S'imaginer que parce qu'elle est immaculée, elle est plus loin de nous, c'est ridicule, c'est juste l'inverse. Parce que précisément, dans le pécheur, il est encombré de son péché, donc il a toujours du mal à accueillir l'autre. Parce qu'il est toujours encombré de lui-même. Vous voyez, la grâce du Christ et de la Vierge Marie, c'est qu'ils sont complètement libres. La place est libre pour nous accueillir. Ils ne sont pas encombrés d'eux-mêmes. Il n'y a pas le vieil homme à mettre dehors. Alors que nous, on est toujours deux quand on accueille quelqu'un. Et il faut réussir à ce que le vieil homme se fasse mettre dehors par le Seigneur. Je vais juste vous lire les... Je ne vais pas le commenter, je ne sais pas si le père Philippe le fera, parce que je crois qu'il voulait passer à l'Apocalypse. Mais je vous lis juste les réponses de Jésus. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, vous voyez, c'est toujours l'astuce, la même astuce que dans la Genèse. C'est-à-dire qu'il émet une hypothèse, si tu es fils de Dieu, alors qu'elle devienne du pain. Vous voyez, c'est de la provocation. Il y a un lien chez le démon toujours entre la provocation et l'hypothèse. C'est-à-dire qu'il fait jouer impossible. Il dit, mais t'as qu'à vérifier. Et Jésus lui répondit, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Et puis ensuite le démon lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire des royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes, et de nouveau, il propose impossible. Si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Du coup, c'est lui qui se met, vous voyez, à prendre la stratégie, c'est-à-dire à se servir de la parole de Dieu en la citant et plus simplement en l'interprétant. Il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent et encore... Sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. Mais Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. C'est ça qui fait parler du fait que le démon attend le moment qui est celui de la passion et de l'agonie. Mais ce qui est très fort, vous voyez, c'est de voir comment est-ce que Jésus répond par la parole de Dieu. Et donc, il refuse catégoriquement d'entrer dans la logique de la question. Alors, je dirais, et ça, il le fait pour nous. Il aurait pu répondre au démon, vous voyez, par une herméneutique divine, et lui expliquer en long, vous voyez, en détail, toutes les raisons de l'erreur de sa question. Mais s'il lui donne la parole de Dieu, c'est pour nous. Pour nous faire comprendre comment nous, étant donné qu'en plus on a des complicités intérieures, je dirais la logique de la question, il n'y a pas besoin qu'on y consente, elle est déjà chez nous. Donc a fortiori, il n'y a pas question d'écouter la question. Il faut se contenter de répondre la parole de Dieu. Avant même d'avoir compris la question. Vous voyez, c'est d'être entré dans la logique de la question. Parce que dès qu'on commence à essayer de comprendre la question du démon, c'est-à-dire la logique de la tentation à laquelle on est soumis, on est déjà complètement dedans. C'est une logique qui est bien plus forte du côté psychologique en nous et affective que la logique de la grâce. Du côté psychologique, l'enfant de Dieu, il est net, il est pas très présent. Et donc, le Christ nous donne une intelligence de la lutte. Alors, dire que le Christ a-t-il du coup une psychologie ? Là, ce qu'on vient de voir, c'est que le Christ n'a pas une psychologie comme la nôtre. Et le problème, c'est que nous n'avons d'expérience de la psychologie que fêlée. Pas l'intelligence. L'intelligence, elle n'est pas fêlée. Et 1 plus 1, ça fait 2, même pour Jésus. Pas pour l'amour. Le fait que l'amour de Dieu et de la personne humaine finalise le cœur humain, c'est vrai même pour Jésus. Pas non plus de la vie végétative. Que la mort soit une souffrance, c'est vrai aussi pour le Christ. Mais pas même d'ailleurs pour la sensibilité. Mais la logique de notre affectivité n'est pas la sienne. Et ça, c'est très impressionnant. Vous voyez, quand on prend, c'est une manière de répondre à cette fameuse tentative de lire l'Évangile et d'essayer de cerner le personnage psychologique du Christ comme ça a été fait, c'est de prendre l'Évangile et essayer de caractériser le tempérament de Jésus. Et vous verrez que c'est impossible. Parce qu'il dit qu'il est doux, il y a d'autres moments où il se met en colère. Il y a des moments où, précisément, comme dans ces moments-là, où il a l'air de ne pas être intelligent, puisqu'il ne répond pas intelligemment. Il y a d'autres moments où il dit « homme sans intelligence », il y a des moments où il a l'air affectif, il y a des moments où il réagit immédiatement, il y en a d'autres où il ne réagit pas du tout. C'est impossible, vous voyez, de le caractériser psychologiquement. Alors que Saint-Pierre, ce n'est pas difficile. Mais c'est impressionnant parce que, si vous voulez, c'est pas... S'il était idéalisé d'ailleurs par ceux qui écrivent l'Évangile, quand on idéalise quelqu'un, on lui donne des traits. Ça donne beaucoup plus de force. Vous voyez, les récits des saints. Alors on les fait, ils étaient doux dès leur berceau et déjà ils rêvaient au Seigneur. Ou bien c'était des affreux et des colériques qui se sont convertis. Enfin, on caractérise, si vous voulez, ou on montre. Et bien, si vous cherchez dans l'Évangile, vous n'arrivez pas à vous faire le portrait affectif et psychologique du Christ. Et ça, c'est très impressionnant. Oui, c'est une manière très concrète, parce que la parole de Dieu, elle m'est donnée aussi pour ça, pour voir que les passions sont présentes en Jésus, puisqu'il pleure. Donc la tristesse est présente en lui, la joie, la colère, la fuite même, puisqu'il y a des moments où il ne monte pas, vous voyez, quand il ne veut pas monter à Jérusalem. Puis quand il demande que la coupe lui soit éloignée. Donc on voit la présence des passions dans Jésus. Mais la manière dont elle fonctionne, si vous voulez, est immédiatement liée à sa finalité. Elles sont immédiatement le reflet de la présence de la grâce en lui. Donc il n'y a pas cette tension tragique. Vous voyez, imaginez que le Christ vit de manière tragique, intérieurement, comme nous, c'est une projection. Alors on va dire, à propos de l'agonie, mais quand on relit l'agonie attentivement, il ne s'agit pas du tout d'un tragique affectif et passionnel. Il s'agit de quelque chose qui est vécu à l'intérieur de la volonté, dans la vie spirituelle, d'une épreuve de Dieu. Vous voyez, au moment de l'agonie, Jésus vit une épreuve, mais pas une tentation au sens d'un drame, vous voyez, psychologique qui risque de le faire tomber. On doit même aller plus loin. D'une certaine manière, il n'y a que dans le Christ et dans la Vierge Marie, en raison du mystère de l'Immaculée Conception, qu'on est face à des passions parfaitement humaines. Mais il ne faut pas dire qu'ils sont tellement vertueux qu'il n'y a même plus de passions. Ce n'est pas vrai du tout, parce que les vertus ne suppriment absolument pas les passions, elles leur donnent d'être humaines. Les passions sont là pour manifester l'amour dans la sensibilité. Alors, si on entend la psychologie au sens de la présence des passions et de l'affectivité, oui, Jésus a une psychologie, la Vierge Marie aussi. Mais si on parle d'une psychologie au sens de cette espèce de lieu de conflit affectif permanent, de blessures, de brisures, de nœuds, alors à ce moment-là, dans ce sens-là, on ne peut pas parler de psychologie. C'est pour ça que saint Thomas invente un mot, il parle de pro-passion chez le Christ, pour montrer le fait qu'elles sont plus passions que les nôtres, parce qu'elles sont immédiatement sous la mouvance de l'Esprit-Saint. C'est pour ça d'ailleurs, vous voyez, de la même manière que les sacrements, évidemment, la découverte, vivre de l'humanité de Jésus, à travers la parole de Dieu, à travers les sacrements, à travers l'oraison, je dirais que c'est la meilleure thérapie.
puisque c'est évident que la présence de quelqu'un dont les passions sont ordonnées à l'amour et sont reflet de l'amour, c'est ce qu'il y a de plus apaisant, de plus guérissant pour quelqu'un qui est malade. La manière dont Jésus est médecin, c'est pas en nous donnant des choses. C'est par lui, vous voyez, je veux dire, c'est lui le remède. Alors, c'est très important, ça, pour essayer de... Mais le risque, c'est, projetant sur Jésus une psychologie de pécheur, c'est-à-dire une psychologie tragique, et donc projetant les sentiments d'angoisse, d'aliénation, surtout l'angoisse. Vous voyez, il est dit dans l'Évangile que Jésus vit de l'angoisse. Mais de quelle angoisse est-ce qu'il s'agit ? Vous voyez, projeter sur lui l'angoisse, l'aliénation et la culpabilité, et de dire que de la même manière qu'en Jésus, c'est l'angoisse, la culpabilité et l'aliénation sont utilisées par la grâce, sont divinisées même, et de dire que c'est la même chose en nous, c'est très dangereux. Parce que c'est, je ne sais pas comment vous dire, c'est sacralisé, vous voyez, c'est sacralisé ce qui ne l'est pas sacralisable. L'aliénation, la culpabilité et l'angoisse sont les conséquences du péché originel. Elles ne sont pas directement instruments de grâce. Elles peuvent être l'occasion de se tourner vers le Seigneur. Mais elles sont... L'angoisse du Christ me sauve parce qu'elle est vécue dans son amour et pas dans sa psychologie. Mais mon angoisse psychologique ne me sauve pas. Elle n'est pas instrument de grâce. Elle est l'occasion, oui, l'occasion, mais pas l'instrument. C'est pour ça que la fragilité, les failles psychologiques en nous sont l'occasion de dépendre du Christ, jusque dans notre affectivité. Donc, sont une, si vous voulez, une permission de Dieu pour découvrir une dépendance vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos frères. Parce que c'est évident que quand on est dans l'angoisse, on a pas, non seulement on a besoin de Dieu, mais on a besoin de ses frères. Quand on vit de la culpabilité aussi. On a besoin du sacrement du pardon, mais on a aussi besoin du pardon de ses frères. Et donc, c'est une permission de Dieu qui m'ouvre à un lien plus grand, qui est l'occasion d'un lien plus grand avec lui. Mais qui ne sont pas les lieux de la grâce. Je ne peux pas bénir le Seigneur pour ma culpabilité, mon angoisse et mon aliénation. Je peux le bénir pour le pécheur que je suis. Et je peux le bénir même pour les pauvretés qu'il y a en moi. Mais pas pour le mal. Les pauvretés, c'est l'effet. C'est les, oui, c'est, je dirais, c'est ce que creuse en moi le mal ou la souffrance. Je ne bénis pas le Seigneur pour le mal comme tel. Ça, sûrement pas. Je ne bénis pas le Seigneur pour la souffrance. Je le bénis pour la soif qui creuse en moi. C'est pas la même chose du tout. Mais c'est ce que n'a pas compris le jansénisme. Et le grand danger du jansénisme, c'est précisément d'avoir confondu le mystère, la croix, la souffrance et la communication de l'amour. Alors bien sûr, elles sont inséparables, mais je les distingue. La croix, elle est ordonnée à la communication de l'amour. Et ce n'est pas la souffrance comme souffrance qui me communique l'amour. Donc c'est important de, vous voyez, en relisant l'Évangile, de découvrir non seulement comment Jésus vit de l'épreuve, de la tentation, non pas comme un modèle. Je ne peux pas, puisque moi je suis cassé. Je ne peux pas faire comme lui. C'est une bonne des manières d'ailleurs de comprendre que Jésus n'est pas modèle comme nous on voudrait qu'il soit modèle. Il n'est pas. Il y a une imitation de Jésus-Christ, mais pas au sens où je pourrais faire ce qu'il fait, sans lui. Et où il serait derrière la vitrine et je n'ai que de l'autre côté à faire la même chose que ce qu'il a fait. Puisque précisément, moi, mon psychisme, il est complètement fêlé. Et donc, j'ai à découvrir la manière dont le Christ et dont la Vierge Marie vivent de ces épreuves et de ces tentations, mais pour les vivre avec lui. Et donc, ça passe par une découverte, par un lien avec le Christ, avec l'humanité du Christ. Saint Thomas parle d'une incorporation au Christ. Et donc c'est lui qui me guérit. C'est pas en l'imitant que je me guéris. C'est pour ça qu'il y avait une question qu'on peut recevoir dans cette ligne-là. Les mortifications sont-elles une éducation contre les tentations? Tout dépend ce qu'on appelle les mortifications. Et tout dépend comment on les vit. Si la mortification, ça consiste à m'entraîner à souffrir pour qu'au moment de l'épreuve, j'arrive à la passer, c'est pas ça. Ça s'appelle de l'entraînement. Ça s'appelle pas des mortifications. Vous voyez, que j'apprenne à jeûner pour être capable de me fortifier un peu, pour que le jour où on aura moins à manger, vous voyez, je ne succombe pas, ça c'est très bien. Ça ne s'appelle pas une mortification. Il y a une ascèse, si vous voulez, humaine, même pour le psychisme. Il faut apprendre progressivement, effectivement, à ce que le vieil homme n'ait pas nécessairement sa mousse au chocolat tous les jours. Vous voyez, donc on l'éduque, on le mortifie un peu en lui faisant comprendre que même si on ne peut pas lui couper la tête tout de suite, on commence par lui réduire les portions. On l'affame progressivement, le vieil homme. C'est vrai, on ne peut pas tout de suite le couper la tête. On ne peut pas déraciner d'un seul coup parce qu'on enlève le bon grain avec l'ivraie. Mais il s'agit de laisser le Seigneur en nous. Il dit coopérer avec intelligence, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'intelligence à ce moment-là, pour ne pas couper. Vous voyez, parce que les mortifications, ça risque de déraciner le cœur en même temps que l'ivraie. Sous prétexte que d'aimer, c'est dangereux, on va arrêter d'aimer parce que c'est dangereux. Oui, c'est pas facile. Dans les mortifications, il faut avoir toujours la parabole du bon grain et de l'ivraie en face de soi. Et puis comprendre que la mort du vieil homme, elle est lente. Alors de temps en temps, le Seigneur se charge de le supprimer plus rapidement, mais il n'y a que lui qui peut faire ça. Et qu'au fond, ce qui fait mourir le vieil homme, c'est pas tant, pas comment vous dire, de lutter directement contre le mal que de lutter pour le bien. C'est l'amour qui tue le vieil homme. C'est pas la suppression, vous voyez, c'est pas en m'opposant immédiatement à mon péché que j'arriverai à le vaincre. C'est par l'amour. Mais c'est beaucoup plus difficile d'aimer jusque dans l'épreuve que je choisis, c'est ça la mortification, que de vivre la mortification comme un bon stoïcien qui s'entraîne. Oui, c'est beaucoup plus facile de me punir parce que j'ai fait une faute en disant « Voilà, comme ça, tu n'auras pas de dessert pendant une semaine. » Ça, c'est très facile. Psychologiquement, d'ailleurs, ça s'explique très bien. C'est une manière de compenser le sentiment de culpabilité. Enfin, ça marche très bien. Mais c'est beaucoup plus difficile de s'apercevoir que parce que j'ai mangé 5 mousses au chocolat d'un seul coup, c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce que ça m'a coupé de l'amour du Christ. Et donc, il faut que j'arrive à aimer le Christ au point que la mousse au chocolat devienne secondaire. Et que je m'en prive pour m'aider à ce que le Seigneur soit plus présent. Pas pour m'en priver. Mais pour qu'à ce moment-là, au lieu de manger ma mousse au chocolat, j'aille vivre de la présence, de la sensibilité glorieuse de Jésus, qui est plus que la mousse au chocolat. Ça, c'est le sens de la mortification chrétienne, elle est liée à l'amour. Donc c'est pour aimer plus. Alors s'il s'agit de s'éduquer pour aimer plus, alors là oui. Mais j'irai d'autant plus la mortification touche les fragilités du psychisme de manière immédiate, et d'autant plus elle doit être immédiatement liée à l'amour. pour précisément éviter, vous voyez, je dirais court-circuiter la logique de la psychologie, qui est ravie de se venger sur soi-même. Ou de ne pas se venger, au contraire. Enfin, vous voyez, on a, là-dessus, de toute façon, on est toujours perdant quand on rentre dans... Donc c'est vraiment c'est de télescoper, de laisser tomber la logique d'une vengeance contre soi ou au contraire d'une espèce de démagogie envers le pauvre pécheur qu'on est, et d'entrer dans le réalisme de l'amour. Ça, c'est mortifiant, au sens positif, c'est-à-dire que ça me fait mourir, parce que d'aimer, ça me fait mourir à moi-même. Et si pour aimer de manière plus réaliste, j'ai besoin de moins manger, de jeûner, de prier, de veiller, alors là, oui. On voit bien ça, vous voyez, quand on a à veiller ou à jeûner. Quand on ne fait plus que jeûner pour jeûner et qu'on ne cherche plus qu'à tenir, que c'est la seule finalité qu'on a, c'est de tenir, ça s'appelle le marathon, ça, ça ne s'appelle pas, là, vous voyez, la cesse chrétienne. Donc les mortifications, quand elles sont vécues avec le Christ, et quand elles reçoivent leur signification de la présence du Christ, mais du contre les tentations, alors ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et c'est vrai que d'aimer vraiment, c'est exigeant, même du côté sensible. Vous voyez, c'est le réalisme. Pour que ça assume réellement tout ça, il faut être réaliste. Je ne veux pas avoir la vie de la grâce d'un côté, puis de l'autre côté, je vis dans une chaise longue, vous voyez, au soleil. Il y a une unité en moi. Et pour que la grâce s'incarne, c'est évident qu'il va falloir que je prenne des moyens. Guidé par l'Esprit Saint. Souvent même aidé par quelqu'un qui me connaît, qui peut, vous voyez, qui a un peu d'avance sur moi, qui peut m'aider à ne pas faire de bêtises. À pas arracher les bonnes plantes avec les mauvaises. Souvent d'ailleurs, la mortification, elle consiste à répondre à l'invitation du Seigneur. Et pas trop chercher, vous voyez, à tailler le jardin soi-même. Il y avait deux dernières questions, je ne vais peut-être pas y répondre de manière très développée, mais sur le y a-t-il un péché collectif? Et qu'entend le Saint-Père par structure de péché? Quand le Saint-Père parle de structure de péché, c'est ce que vous a développé le Père Philippe sur la tour de Babel. C'est cette espèce de logique non seulement affective, enfin à l'intérieur de l'homme, non seulement une logique, je dirais, dans les relations fraternelles, mais une logique communautaire de péché, une auto-justification communautaire du péché. Et même une justification idéologique du péché. Vous voyez, on se sert de la théorie, c'est ce que montre très bien le Saint-Père dans son encyclique, de la théorie du capitalisme pour justifier la société de consommation et l'individualisme du consommateur, alors c'est un péché. Vous voyez, alors c'est une idéologie du péché. Vous voyez, tout dépend, quelle est la logique de l'idée dont on se sert. Ou bien on ne parle que de mécanismes économiques et que au niveau économique. À ce moment-là, on n'en fait pas une théorie. On se contente de constater des lois. Mais vous voyez, tout le problème est quand on se sert d'une analyse pour justifier ce qu'on vit. Ce que fait, vous avez remarqué, tout de suite Adam. Se justifie en disant que c'est pas lui, que c'est l'autre, c'est elle. Et dans ce sens-là, on peut parler de quelque chose d'analogue à un péché collectif. Mais au sens strict, le péché n'est jamais collectif parce que il est un acte de la volonté. Or, la communauté, comme telle, n'est pas le sujet d'un acte. Quand on parle d'un acte communautaire, c'est toujours ambigu. Qu'est-ce que c'est qu'un acte communautaire? Que ça soit l'acte de chacun harmonisé dans une cérémonie, par exemple. L'Eucharistie, c'est, d'une certaine manière, c'est appelé à devenir un acte communautaire. Parce que c'est l'acte de chacun. Mais il n'y a pas de péché collectif sans qu'il y ait de péché personnel. Et le démon se cache toujours derrière l'anonymat. C'est très astucieux de croire qu'on est dans le péché collectif. Parce que ça permet de se disculper, vous voyez, de sa responsabilité personnelle. C'est pour ça qu'au sens strict, le péché comme acte d'orgueil n'est pas collectif. Mais dans ses conséquences, il peut être collectif. Il peut y avoir une mise en œuvre collective des conséquences du péché. Puis une dernière question. Pourriez-vous nous dire en quoi le nouvel âge peut être la métatentation? C'est vrai que ça serait très intéressant de comparer tout ce que le Père Philippe a développé dans cette théologie des tentations et des épreuves, ce qu'il a dit sur les idéologies athées et ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel âge. Alors on s'apercevrait à la fois que c'est ridicule, c'est beaucoup moins intelligent que les idéologies athées. Les idéologies, c'est très pensé, c'est très structuré, c'est très puissant. Le nouvel âge, c'est beaucoup plus une mode dont on espère qu'elle passera. Mais le démon se sert de tout, et je veux dire même les choses bêtes.
Oui, il n'a pas...
L'orgueilleux qui va jusqu'au bout de l'orgueil, il est capable de se servir même des choses bêtes. Il ne lésine sur aucun des moyens, même les moyens ridicules, intellectuellement. Et c'est vrai que le nouvel âge, c'est-à-dire cette espèce de mouvement d'humanisation du mystère chrétien, puisqu'en dernier lieu, c'est ça. C'est une récupération humaine de l'apport du christianisme et de l'apport de l'évangile. C'est de dire, voilà, alors il a beaucoup d'autres formes, hein, mais le fond du fond, c'est ça, c'est de dire au fond, le christianisme a mûri l'humanité, mais sa seule erreur, c'était de croire, de manière encore un peu mythique, que ça venait de Dieu. Ce qui explique très bien Feuerbach. Hein. Feuerbach explique, au fond, ce que le chrétien appelle l'amour de Dieu, c'est l'amour de l'homme, et qu'il faut comprendre que Dieu n'est que la projection de l'intérieur de l'homme. Tout ce que l'homme appelle Dieu, c'est lui-même. C'est une très bonne lecture aussi psychologique. Et ce que fait le Nouvel Âge, c'est de manière moins agressive, moins intellectuelle, la même chose. C'est de dire au fond, appelons ça Dieu, appelons ça énergie cosmique, appelons ça Esprit Saint, appelons ça les esprits, appelons ça, enfin on appelle ça tout ce qu'on veut, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que chacun arrive de manière efficace à se sauver, à être heureux, c'est-à-dire à se sauver lui-même. Le but, c'est l'efficacité spirituelle. C'est de vivre sur terre comme au paradis. Et de comprendre que le péché, le mal, toutes ces vieilles choses manichéennes, c'est complètement dépassé. Et qu'en fait, ce qui a manqué à l'humanité jusque-là, c'est de prendre conscience qu'elle était le lieu du paradis. Et que c'est ça, le nouvel âge, c'est la prise de conscience universelle, collective et personnelle du nouvel âge dans lequel nous entrons, qui est un âge, si vous voulez, d'application d'un certain nombre de préceptes chrétiens qui étaient projetés dans l'éternité, vous voyez, et le mystère de Dieu, de l'appliquer aux choses, aux événements concrets, c'est-à-dire aussi bien à l'économie qu'à la gymnastique, qu'à la médecine, qu'à la politique, tout ce que vous voudrez. Et donc en ça, c'est une des formes de la métatentation. C'est la forme la plus vulgaire, mais du coup, c'est peut-être celle qui touchera le plus de monde. Alors, vous voyez, dans sa forme américaine, parce que c'est celle-là qui est en train de passer, c'est-à-dire comme mode qui fait que tout est du nouvel âge, y compris la nouvelle coiffure, y compris la nouvelle manière de faire de la gymnastique, y compris une nouvelle boisson pour les jeunes, enfin, tout est nouvel âge. Ça passera. Par contre, l'idée même, il y a des chances qu'elle demeure. C'est Jean-Marie de Ménat qui dit que les idéologies ne sont jamais aussi présentes que quand on n'en parle plus. C'est le venin, ce que disait le père Philippe hier. Le démon, il n'a plus besoin d'apparaître. Une fois que le venin est inoculé, il n'y a plus besoin du serpent. Et l'idée du nouvel âge, cette idée de fond, elle demeurera très présente. Vous voyez, qui est au fond qu'on va vers une religion universelle, humaine. C'est la tour de Babel avec l'agressivité en moins. On s'affronte à rien, il n'est pas question de s'affronter à quoi que ce soit. Si ce n'est si, à l'intolérance. Le problème, c'est que les plus intolérants dans l'histoire, c'est les chrétiens. Parce qu'ils sont les seuls à ne pas vouloir que ceux dont ils sont dépositaires ne fassent pas partie, vous voyez, des éléments du patrimoine de l'humanité. Et qui prétendent qu'ils soient dépositaires de quelque chose qui vient directement de Dieu, ça, c'est absolument intolérable. Parce que c'est une intolérance majeure envers toutes les autres les attitudes religieuses. Alors ça, on le voit déjà en France, pas tellement du côté de la mode, mais du côté des idées. Parce qu'on fait une grande soupe, enfin vous voyez, je vous dis, mais le fond, il y a plein, ça a plein de formes différentes. Mais le fond, c'est quand même ça. Alors c'est intéressant du côté psychologique. Le nouvel âge, il faut apprendre à gérer son psychisme en l'épanouissant, sans qu'il s'affronte trop aux autres. Il s'agit de gérer son épanouissement, si vous voulez, en gros. Psycho-spirituel. Alors on mélange, vous voyez, le tout c'est d'être dans une douce euphorie. Il n'est pas question d'être dans la vérité, ça n'a aucune importance, parce que la vérité c'est précisément l'épanouissement de chacun. Il ne s'agit pas d'être dans l'amour, parce que le but c'est de vivre dans une relation avec l'autre qui fait qu'on ne marche pas sur les pieds de son voisin et qui ne marche pas tellement sur vos pieds. Il ne faut pas que ça devienne trop pénible d'aimer l'autre. Il faut que ça se... qu'on gère les relations avec les autres de manière à peu près correcte. Et il s'agit plus de Dieu, puisqu'il s'agit de comprendre qu'on est Dieu nous-mêmes. Alors je laisse au Père Philippe de répondre à une dernière question. Pourquoi la femme est-elle plus aimée que l'homme dans le regard de Dieu? Je pense qu'il faut l'Apocalypse pour répondre. Alors je crois que... Parce que la question qui est apparue aussi plusieurs fois et qui lui a été posée, mais évidemment c'est pour la fin, c'est au fond le pourquoi de tout ça, en dernier lieu. On l'a un peu esquissé, mais toutes ces permissions de Dieu, toute cette complexité, parce que c'est quand même très compliqué tout ça. On a envie de dire au Seigneur, mais pourquoi tu fais les choses si compliquées? Et on s'y retrouve tellement peu, et déjà en essayant, oui, on a du mal, mais alors... Et le pourquoi, vous voyez, c'est quand... Là, on a cherché du côté de l'origine. Mais la raison dernière, elle n'est jamais du côté de l'origine. Vous savez, c'est au moment de l'aveugle de naissance. Les apôtres demandent, mais qui a péché, lui ou ses parents? Puis vous voyez les grands prêtres, et tout le monde autour de Jésus cherche, mais d'où vient qu'il est aveugle? Le Christ ne répond pas d'où ça vient. Il répond en vue de quoi c'est? Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc la réponse ultime, elle n'est pas du côté de l'origine, elle est du côté de la finalité. Et c'est l'autre versant. Jusque-là, on a vu les conditions dans lesquelles nous mettent cette faute d'origine, et déjà la manière d'en vivre grâce au Christ. Mais c'est la finalité dernière des tentations, ça c'est l'Évangile et l'Apocalypse qui nous révèlent.